Voilà, on va méditer la parole de Dieu en partant de l'Épître aux Éphésiens chapitre 2. Épître aux Éphésiens chapitre 2. Ah si, vous avez les salutations des représentants de l'île de la Réunion. On s'est croisés fortuitement. Et ils m'ont dit alors, l'église. J'ai dit, ça y est, on est rentré. Ah, formidable. On est content. J'ai dit, arrêtez-vous en repartant. Ouais, cette fois, on ne peut pas, mais la prochaine fois, on s'arrêtera. Eh bien, c'est très, très bien. Rappelez-vous, nous avez fait un don aussi pour les travaux. Donc, Éphésiens chapitre 2. La vie en trois temps. Alors, on va voir le premier sans trop s'y étendre, puisque c'est de l'histoire ancienne pour nous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et normalement, on peut dire Amen. Parce que c'était autrefois. Mais en même temps, cet autrefois, c'était assez radical. C'est ce que nous étions. C'est ce que nous vivions. Les uns moins, les autres plus, mais la réalité était la même. Sans Dieu, sans espérance, par nature, des enfants de colère vivant selon la volonté de l'homme, les convoitises de la chair et de nos pensées, et nous étions contre Dieu. Et puis il y a eu un temps. Voilà. Et l'important, c'est qu'on arrive au troisième temps que l'on va voir tout à l'heure. Le premier, normalement, est dépassé. Et il y a eu le temps qui s'appelle le temps où Dieu fait grâce. Et par exemple, c'est dit dans Ésaïe 49, « Au temps de la grâce, je t'exaucerai. » Et ce temps de la grâce a duré dans notre vie. Et pour certaines personnes, peut encore durer. C'est le temps, par exemple, où le Seigneur Jésus passe et les foules s'approchent, elles ne se convertissent pas pour autant, elles ne donnent pas leur cœur au Seigneur pour autant, elles ne se font pas baptiser pour s'engager à marcher avec lui pour autant, mais en même temps, elles sont bénies. Le Seigneur honore la foi, les malades sont guéris, la foule est nourrie, des bénédictions extraordinaires se passent, c'est un temps que Dieu fait grâce. Voilà. Mais ce n'est pas un temps qui est appelé à durer. C'est un temps de grâce. Voilà, c'est un état de grâce. Et aujourd'hui, nous vivons le temps de la grâce. Et un jour, ce temps de la grâce qui a commencé se terminera. Lorsque le Seigneur viendra chercher l'Église et la fin du monde s'établira. Voilà. Et pendant ce temps de la grâce, c'est un temps de transition. C'est un temps où on quitte cette vie par nature sans Dieu, où on vivait selon la volonté de la chair et de nos pensées, comme chacun le veut. Voilà. C'est un temps où même le Seigneur dit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. » Ésaïe 65, verset 1. Voilà. Et ça, ça peut troubler. « Dieu m'a béni, j'ai rien fait de particulier. Voilà. » Mais il ne faut pas rester sur cette position-là, parce que c'est seulement un temps de grâce. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et ça, c'est extraordinaire. La plupart d'entre nous, c'était notre cas. On ne cherchait pas Dieu. Mais lui, nous a cherchés. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Pour nous, c'est une voisine qui nous a parlé du Seigneur. Voilà. Et cette voisine, donc, nous a amenés à l'église. Et au bout d'un moment, on l'a vue autrement qu'une voisine. Parce que quand nous, on a commencé à marcher dans les voies de Dieu, on a commencé à comprendre les choses de Dieu, et en même temps, nos yeux se sont ouverts sur la façon de vivre de cette voisine. Et après, quand je suis devenu pasteur, je me suis dit combien j'aurais aimé ne pas la voir dans l'église, cette voisine-là. Paradoxe, hein ? Paradoxe, hein ? Pourtant, c'est elle qui nous a parlé du Seigneur, une pénible notoire. Voilà. À la limite, il fallait peut-être des gens comme ça, que rien n'arrête, pour oser venir nous parler du Seigneur à nous. Voilà. Donc c'est pas pour justifier, mais parfois on est dérouté. Par quel chemin vous êtes venu au Seigneur? Et donc il y a un temps où Dieu fait grâce, donc je reprends le raisonnement. La vie en trois temps, il y a un temps où on est sans Dieu, sans espérance, on est contre Dieu, et comme dit Paul aux Éphésiens, on était mort dans nos offenses, dans nos péchés, et on vivait en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Par nature, nous étions des enfants de colère comme les autres. Et puis il y a un temps où Dieu fait grâce, où on ne le cherche pas, mais lui nous cherche, où il est écrit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, la bénédiction de Dieu se manifeste. Alors ce temps de la grâce peut durer un certain temps. Mais ce temps de la grâce s'arrête à un moment donné. Et là, le Seigneur nous demande d'arriver dans ce que j'appelle, moi, le troisième temps, c'est le temps de l'obéissance. Il y a eu un temps sans Dieu, il y a un temps de grâce, où Dieu ne demande rien, il répond, il bénit, comme les foules qui viennent vers Jésus. Et puis, il y a un temps où on doit maintenant se ressaisir et se convertir. Et l'obéissance, c'est la base, le fondement de la vie chrétienne. Un chrétien, autrement dit, qui n'obéit pas à ce que le Seigneur demande, c'est un chrétien va complètement dénaturer le temps de la grâce que le Seigneur lui a accordé pendant lequel il ne demandait rien, parce que c'est quelqu'un qui va refuser d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu, justement. Et à l'amour que le Seigneur a manifesté et au prix duquel il est allé jusqu'au bout. La Bible dit de lui, il a appris l'obéissance bien qu'il soit fils. Voilà. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quelque part, le sacrifice, c'est une... ça rassure la conscience. Ah, j'ai fait ce que Dieu exigeait. Mais l'obéissance est complètement différente. C'est un petit peu comme des enfants qui viendraient de temps en temps offrir un bouquet de fleurs à la maman. Tous les autres jours de l'année, ils lui gâchent la vie. Parce qu'ils ne tiennent compte de rien. Et de temps en temps, un cadeau comme pour acheter. Non. Et la maman, toutes les mamans vont répondre, mais moi, je te remercie, mais c'est tout le reste qui est le plus important, au-delà de ce cadeau. Voilà. Et l'apôtre Paul le dira, lorsque votre obéissance sera complète, ça veut dire que l'obéissance, est un chemin, et ce n'est qu'un début. Commencez à obéir au Seigneur. L'obéissance nous amène au baptême. Le baptême, c'est un engagement, et l'évangéliste et le médecin Luc le dira, en reprenant les paroles de Jésus, en ne se faisant pas baptiser, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, en parlant des religieux. L'obéissance nous amène à la Sainte Cène, à la communion. Nous faisons ceci en mémoire de lui, et c'est un acte d'obéissance, c'est pas un acte religieux. C'est un acte d'obéissance. On ne le prend pas parce que aujourd'hui on se sent bien, et donc si le dimanche d'après on se sent moins bien, on ne va pas prendre le pain et le vin. C'est un acte d'obéissance que l'on prend. C'est une communion que chacun s'éprouve lui-même. Et ça nous amène à la vie de l'Esprit. Attendez ce que le Père a promis. Et le baptême de l'Esprit s'inscrivait dans une position d'obéissance. Ils ont attendu. Ils ont tenu compte de ce que le Seigneur avait dit. Ils ont prié, et en priant, le Seigneur a manifesté sa grâce. Voilà. L'apôtre Jacques le dira, c'est écrit partout, c'est un peu comme en filigrane, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Voilà. Le temps de la grâce, nous en sommes, je pense, sortis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous fait plus grâce, ça veut dire que nous sommes arrivés dans une dimension plus grande que le temps de la grâce. Et nous sommes, puisqu'on était dans les Éphésiens, on reste dans les Éphésiens. On va au chapitre 5, et nous sommes appelés à devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Chapitre 5. Et à marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. On a dépassé le temps de la grâce. On est dans l'engagement. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Vous conduisant avec circonspection. Et le chrétien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dirige sa vie en obéissant à la parole de Dieu. On ne dirige pas sa vie comme l'on veut. Le piège dans lequel des chrétiens sont tombés, c'est qu'ils dirigent la vie comme ils prient. Ils prient comme ils veulent. Ils disent ce qui leur passe par la tête. Et ils vous diront, mais moi je prie. Ah oui, mais votre prière, c'est un feu d'artifice. Ça part dans tous les sens. Vous dites ce que vous voulez. Et à la fin, vous dites, Seigneur, réponds. Non. Le Seigneur a dit, quand vous priez en mon nom. Alors, je ne sais pas comment vous le vivriez, mais moi je prends souvent cet exemple. Si vous dites à quelqu'un, tu peux demander des choses à telle personne en mon nom, vous allez au moins vérifier pour répondre, puisque la personne à qui c'est demandé va venir dire, t'es d'accord ? Tu as signé avec tout ce qui m'est demandé ? Vous allez vérifier que ce que la personne demande correspond à ce que vous lui avez indiqué. Et nous, parfois, nous prions. Et nous prions avec un peu comme une formule, dans la mesure où à la fin de la prière on a dit au nom de Jésus, la formule est bonne. Ça marche, Dieu va bénir. Ce n'est pas une formule la prière. C'est une question de considération. Et quand je dis au nom de Jésus, ça veut dire que tout ce que j'ai dit, le Seigneur est d'accord. J'ai vérifié que ce que je dis est d'accord, est en accord avec ce que lui il a fait, avec ce que lui il a dit. Et ce n'est pas parce qu'à la fin je vais mettre au nom de Jésus que la formule est bonne. Ce n'est pas une formule la prière. Je dois vérifier que ce que je dis correspond à ce que la personne a dit et à ce que la personne veut. Voilà. Si vous êtes allé voir le distributeur de marchandises en disant « Les personnes qui viendront en mon nom demander tout ce qui est dans cette liste, vous leur donnerez. Ben, » Du coup, le fournisseur de marchandises, quand il la voit quelqu'un qui dit « Je viens au nom de pour un tel en son nom et j'ai besoin de ça, ça, ça et ça », et va le donner parce que tout est dedans. Nous nous adressons à Dieu le Père au nom de Jésus. Ça veut dire en considération de tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Et pas de tout ce qui nous passe par la tête. Voilà. Fais-moi gagner ceci, fais-moi rencontrer cela. Mais le Seigneur, il n'est pas venu pour qu'on gagne. Quand des gens viendront lui dire, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi, il va dire, je ne suis pas venu pour ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on va demander des choses et dire « c'est au nom de Jésus que je le demande » que Dieu va les donner. Il va donner ce qui correspond à ce que Jésus a fait. D'accord ? Et c'est ça, en son nom. Souvent, moi, je prends l'exemple du chèque. Si vous signez un chèque, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le chiffre qui est écrit. Vous ne dites pas à quelqu'un « tiens, mets le chiffre que tu veux et après je signe ». Bon, si vous faites ça, vous. Mais si quelqu'un met un chiffre, qu'est-ce que vous allez... Et moi aussi, ne vous inquiétez pas. Avant de signer, qu'est-ce que nous allons faire? On va regarder le chiffre. Hein. Alors peut-être qu'on va dire, ah, mais moi, non, je veux te donner plus. Ah, mais c'est pas sérieux, là. C'est pas sérieux, ce chiffre-là. Voilà. Eh bien, nous, quand nous demandons au Seigneur, et que nous sommes sérieux, lui nous dit, non, je vais te donner plus. Parce que je donne au-delà de ce qu'on demande, etc. Voilà. Mais parce que c'est sérieux. Moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, et puis ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens comme ça, ils me disent, mais vous savez, moi, j'ose pas demander à Dieu pour moi. Et j'ai dit, ben non, là, vous commettez une erreur. Il dit, oui, mais je ne vais pas embêter le Seigneur. Ils me le disent comme ça, je ne veux pas déranger le Seigneur. Il a déjà tellement à faire avec les autres. Je ne vais pas venir la nuit avec mes affaires. J'ai dit, non, là, Dieu est un père. Et quelque part, vous le blessez. Parce que vous êtes un enfant qui a besoin de lui, mais qui ne vient rien lui demander. Alors, faites-le. Il vaut mieux, à la limite, commettre une erreur comme ça, par défaut, que par excès. Ah bon, mais puisque Dieu répond à la prière, ben on va y aller. Voilà. Non, si on demande de mal, on n'obtient pas. Donc, l'obéissance, c'est quelque chose d'important dans notre vie. Et le Seigneur pourrait, à un moment donné, conditionner ses réponses à l'obéissance. Tu me demandes, mais moi, quand je te demande quelque chose, et en fait, je t'en demande une, deux choses. Et elle ne vient pas. Et toi, tu me demandes pour toutes les autres que je dise oui, que je dise oui. Il y a eu un temps où j'ai dit oui, mais maintenant, il y a un temps où c'est différent. C'est le temps de l'obéissance. Alors, il y en a parfois qui n'obéissent pas et c'est notoire. Alors, on va le voir dans 2 Thessaloniciens, pardon, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 11. On va lire à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il y a toujours eu des gens qui, une fois convertis, ont dit, oh ben maintenant, le Seigneur pourvoit. On vit par la foi. Mais eux, vivre par la foi, c'est on ne fait plus rien. Et on vit au crochet des autres. Alors ils prient. Ils passent leur temps à prier. Alors, du coup, ils n'ont pas le temps de travailler. Alors ils vont le dire. Vous savez, on prie beaucoup pour vous, on fait tout pour l'œuvre de Dieu. Alors quelque part, ben, maintenant, aidez-nous. Mais ça, ce n'est pas vivre par la foi, c'est vivre au crochet. Et le Seigneur n'a pas du tout développé cela. Vous voyez que l'obéissance, elle est peut-être là où nous, on ne l'attendrait pas. Mais le Seigneur n'aime pas les feignants, excusez-moi de le dire comme ça. Il aime ceux qui travaillent, comme lui a travaillé, pour prendre soin des autres. Et la foi consiste à travailler et à dire, Seigneur, mais tu pourvois tout ce dont j'ai besoin. Et de ce travail, il y a une part qui est pour toi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Voilà. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie, le frère viendra. Voilà. Et je vais terminer avec les limites des liens fraternels que l'on pourrait avoir. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Et on terminera avec cela. Chapitre 5, verset 9. 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger pendant ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. Et là, il y a les limites des liens fraternels et qui montrent bien que l'obéissance que le Seigneur attend de nous, c'est une obéissance jusqu'au détail. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie, lit la Bible et va à l'église qu'il est chrétien, comme Dieu le veut, comme Dieu l'entend. Il ne faut pas se leurrer avec cette affaire-là. C'est jusqu'au détail. Et là, il est mentionné quelqu'un qui se nomme en frère est débauché. Littéralement, qui a des relations illégitimes, qui se prostitue, ou qui vit l'adultère, un autre qui est cupide, un autre qui idolâtre, l'autre qui est outrageux ou insulteur, c'est-à-dire des insultes qui blessent, l'autre qui est en état d'ivresse, c'est écrit comme ça, et l'autre qui est un rapace, c'est écrit comme ça, la rapine, un voleur. Voilà. Et là, eh bien, nous avons à considérer. Et si, d'aventure, au milieu de nous, un jour, quelqu'un en arrivait là, mais il faudrait que l'on prenne certaines décisions et certaines mesures. Voilà. Et c'est quelque chose d'important que nous avons à considérer. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Et ça, c'est important de le considérer. Et tous, nous obéissons à la parole de Dieu. En tout cas, nous tous, nous voulons obéir au Seigneur, obéir à sa parole. Et pour cela, nous la lisons, pour cela, nous la méditons. Et en faisant cela, eh bien, nous honorons le Seigneur. Voilà. Alors, on va prier. On va prier dans ce sens, afin que tous obéissent au Seigneur. Que tous obéissent à la parole de Dieu. Que ceux qui se convertiront et qui se feront baptiser, eh bien, rentrent dans cette dimension d'obéissance à tout ce que le Seigneur demande et attend. Après, les uns vont plus vite, les autres vont moins vite. Ça, c'est autre chose. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est écrit. Voilà.